Bonjour à ceux que j'ai pas salués, mais sans avoir tout le monde. Il y a des fois des sujets dont on n'a pas trop envie d'aborder. On les laisse de côté pour un temps et puis on se dit qu'on y reviendra. Alors ça fait un moment que j'ai un sujet qui me tient à cœur et je me suis dit que c'est peut-être aujourd'hui le moment de partager avec vous mes réflexions. Puis on pourra en discuter éventuellement après ce que je vais vous partager. On est dans un moment liturgique entre Pâques et Pentecôte. Et Jésus, à ce moment-là, donne une promesse à ses disciples. Jean-Louis. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Promesse, vérité à laquelle les disciples s'accrochent. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais je suis engagée depuis 2 ans dans une association qui s'appelle Le Jour d'après à Nancy. Et c'est un centre de ressources d'accompagnement et d'écoute pour personnes endeuillées. Alors tout type de deuil, tout type d'âge. Donc je voulais vous partager la lecture que nous a fait dernièrement une veuve qui est venue nous rencontrer. Voilà ce qu'elle nous a lu. L'espace où tu te tiens désormais est inaccessible. Tu n'es plus. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? Tu n'es plus. L'univers démesuré vient cogner à ma porte de la pensée, en criant : ne plus. Jamais. Jamais plus. On se terre. Toute la nuit, il hurle le néant avec le mot du supplément « plus ». Jamais plus. On se concentre pour ne pas devenir fou, et lorsqu'il se lassera et se détournera, on restera seul avec le vide en soi. C'est comme ça. C'est le sens du mot « veuf », « veuve », le vider, la vider. Ce n'est pas rien d'être occupé par un vide. À la suite de cette rencontre, je me suis beaucoup interrogée sur ce qu'est la consolation, le sens de la consolation. Celle que l'on reçoit, celle que l'on donne, mais aussi celle que l'on n'arrive pas à recevoir et celle que l'on n'arrive pas à donner. Il en est beaucoup question dans les Écritures, la consolation, le Dieu est un Dieu de consolation. Alors, on va partager ensemble ce que dit Paul là-dessus, dans sa lettre aux Corinthiens, et quelle expérience lui en a fait. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour notre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. 10 fois le mot « consoler » en 5 versets, un record. Alors, je vous propose de zoomer un petit peu sur l'articulation qu'il y a entre les versets 3 et 4, qui à mon sens est le noyau de cette affaire. beau programme. Notre Dieu qui nous console de toute affliction, afin que nous puissions consoler ceux qui ont toutes sortes d'afflictions. La jeune veuve disait tout à l'heure, jamais, jamais plus on se taire, toute la nuit il hurle le néant avec le mot du supplément, jamais. Et dans notre verset, c'est tout, toute consolation, dans toute affliction. On s'ouvre, tout le jour il hurle la vie avec ce mot du supplément, tout. Ce matin, j'aimerais qu'on se souvienne que notre Dieu est un Dieu consolateur. On le sait et on est amené à le vivre. Et dans un deuxième temps aussi, nous souvenir que nous sommes appelés, en tant que disciples du Christ, à être des agents de consolation. Rappelons-nous cette certitude, Dieu console toutes nos afflictions. Alors l'affliction et la consolation sont deux réalités indissociables, deux faces d'une même pièce, et le Père et le Fils sont porteurs de consolation. C'est la nature même du Saint-Esprit que Jésus promet à ses disciples. Le Saint-Esprit vient remplacer Jésus auprès de ses disciples, et Paul, dans sa lettre, il commence en louant Dieu. Il parle par expérience. Il n'affirme pas une théorie vague qu'il n'aurait pas lui-même expérimentée. Il est en train de nous dire, oui, je te garantis que Dieu est le Dieu de toute consolation. Alors il dresse avant une liste impressionnante d'épreuves qu'il a subies. J'en ai retenu quelques-unes, emprisonnement, travail forcé, humiliation, coups, et à chaque fois, Paul témoigne qu'il a reçu le secours, qu'il a été consolé. Il témoigne d'un Dieu qui s'est tenu à ses côtés, qu'il a consolidé et fortifié. 10 fois, il emploie le mot « consoler » en 5 versets. Ça déborde. Ça déborde de conviction, de sincérité. Il veut partager ça avec les autres. Il est en train de dire « oui, j'en ai bavé » un nombre incalculable de fois, mais à chaque fois, sans faillir, Dieu a été à mes côtés. Dieu a réglé ses pas avec ceux de Paul comme il règle ses pas avec nous. Et la conséquence de tout ça, c'est que Paul a pu avancer, continuer à avancer sereinement, malgré tout, avec la conviction qu'un Dieu consolateur se tient à ses côtés. Il a eu soif de partager avec ses frères et sœurs cette promesse d'une profonde consolation de la part de Dieu, dont la conséquence est sans nul doute pour lui une paix intérieure qu'on ne peut pas expliquer. Elle se reçoit, il a même d'ailleurs bien du mal à décrire cette paix intérieure. Oui, elle ne s'explique pas par un raisonnement humain, parce qu'elle se reçoit, probablement comme la foi. La consolation offerte par notre Dieu, et nous sommes appelés par Paul, à grand cri, à nous en saisir, à la recevoir et à l'accueillir. Alors comment Dieu s'y prend pour nous consoler, me suis-je interrogée. Alors j'ai trouvé quelques pistes. Hein. Par l'Esprit Saint, sans nul doute, Dieu se révèle. Il est capable de se faire entendre, de faire entendre en nous une parole qui pourra nous relever. Par l'Écriture, la lecture de sa parole, les témoignages d'autres enfants de Dieu qui, avant nous, ont été au bénéfice de la consolation de Dieu, le roi David, Marie, Élie, tant de témoins dont on peut relire la conviction et le témoignage. Paul dit bien dans sa lettre aux Romains que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors Dieu console aussi à travers les frères et sœurs en Christ, mais aussi parfois à travers nos frères et sœurs en humanité. Dieu console aussi dans le silence, parfois dans la contemplation de la création, dans l'écoute d'une musique, d'un chant. Mais l'affirmation est bien là, Dieu console de toutes nos afflictions et il n'est pas à court de moyens pour y arriver. Faisons-lui confiance là-dessus. Mais je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment recevoir la même consolation que celle que Paul a reçue ? Finalement, c'était Paul quand même. Et j'en suis venue à la conclusion que oui, parce que nous sommes branchés à la même source. Et que cette source ne change pas, elle. Et qu'elle est inépuisable. Et j'en ai conclu que oui, je peux recevoir la même consolation que Paul a reçue. Et après, je me suis dit, mais dans la liste impressionnante des souffrances de Paul, quand même, je trouve pas la mienne. Et puis, quand même, il a souffert beaucoup. Puis ma souffrance, moi, elle m'isole. J'ai même parfois l'impression qu'elle est pire que toutes les autres. Oui, mais quelle souffrance, quelle douleur, pour quelle douleur Dieu n'a-t-il pas une consolation à offrir ? À quelle douleur Jésus ne peut-il pas compatir ? Je ne peux concevoir qu'il y ait des douleurs et des souffrances que Dieu ne peut pas consoler. Parce que Paul l'affirme, Dieu est le Dieu de toute consolation. Et je dois me saisir de cette vérité et de cette espérance, sinon je peux m'arrêter là, fermer mon livre et partir. Je veux me saisir de cette affirmation, Dieu est le Dieu de toute consolation. Pas de quelques-unes, pas de quelques consolations dont on pourrait être digne, non, de toutes. Des petites, des grandes, des moyennes, toutes. Ma consolation, ma souffrance, mon affliction, Dieu en prend compte et la considère comme celle de Paul. Alors je me saisis de cette promesse, je l'accueille dans le silence, peut-être dans un tête-à-tête avec mon Créateur, et je goûte la consolation divine en cessant de compter sur mes propres forces. Alors dit comme ça, ça a l'air bien facile. Et je me suis dit que ça demande beaucoup d'humilité. Accepter la consolation, oser l'accueillir, sont des victoires vers la rencontre, la sincérité, la joie véritable. Et le parcours peut être délicat pour y parvenir. On se dépouille seul, avec beaucoup plus grand que soi. On avance avec parfois une consolation que l'on a eue facile à accueillir et parfois une consolation qu'on n'arrive pas à recevoir. Et on ne doit pas s'attrister de ça, mais se rendre compte qu'on est en chemin et que Dieu est à nos côtés, quoi qu'il en coûte. Dans les deux cas, il me semble que nous avons à conserver la certitude que Dieu console toutes nos afflictions. Et un des objectifs derrière tout ça est que nous puissions consoler ceux qui ont toutes sortes d'afflictions. Alors, dans ma réflexion et au stade où j'en suis arrivée dans le temps que je passe à l'association, dans le travail d'écoute et d'accompagnement aux endeuillés, j'en suis venue à une conclusion, en tous les cas à cette heure, c'est qu'il y a des consolations qu'il me semble que seul Dieu peut prodiguer. Mais ça n'engage que moi. J'ai cherché dans les Écritures des cas, j'allais dire, extrêmes, et j'ai repensé au passage dans Matthieu, le passage du massacre des innocents. Alors, je vous le relis, hein. C'est cet épisode avec Hérode. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Et alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Qui d'entre nous pourrait se dire être à la hauteur pour consoler une mère qui vient de voir sous ses yeux son fils égorgé, sa famille décimée? Il y a des consolations, me semble-t-il, que Dieu seul peut prodiguer, des restaurations que Dieu seul peut faire. Mais alors, ça veut dire que nous ne devons, que nous ne pouvons rien faire en tant que consolateurs. Et pourtant, Dieu nous appelle à être des agents de consolation. Alors, je pense que si, on peut agir. D'abord parce que Dieu nous appelle à cette mission, tout simplement. Et qu'en tant que disciples de Christ, il nous équipe par l'Esprit Saint. Il nous donne des convictions dans l'Écriture que nous sommes, oui, des agents de consolation. On a d'ailleurs une multitude de témoins qui ont été au bénéfice de la consolation divine et qui poursuivent ce chemin. Alors, Paul dit que nous apprenons à travers nos propres souffrances à nous relever grâce à la consolation de Dieu et être ainsi capable d'être une source de consolation pour celui et celle que nous croisons sur notre chemin. Force est de constater que rien de tel pour consoler les autres que d'avoir été soi-même consolé par Dieu. Dans les entretiens que nous recevons avec les endeuillés, il y a toujours un psychologue et une bénévole formée à l'écoute et au processus de deuil. Et c'est stupéfiant de voir que pendant l'entretien, si la personne qui vient se rend compte que le bénévole formé a eu une même expérience, un deuil similaire, qu'elle est passée par un deuil similaire, la parole du psychologue, elle passe au second plan. On parle de communauté d'événements. L'autre devient un témoin vivant que je peux éventuellement me sortir de tout ça. Qu'une reconstruction est possible. C'est un cheminement, une marche. Je règle mon pas sur celui qui souffre. Alors, on pourrait se dire, bah oui, mais je ne peux pas consoler si je ne suis pas passée par la même souffrance que l'autre. Alors, je ne pense pas que ce soit ça. Ce n'est pas d'ailleurs ce que dit Paul. Paul, il dit juste qu'il faut avoir fait l'expérience de la consolation divine pour pouvoir consoler à son tour. Faire l'expérience de la consolation divine. Et là, je ne prends pas beaucoup de risques en disant que nous l'avons tous expérimenté, plus ou moins intensément, plus ou moins fréquemment. Nous avons tous fait l'expérience de la consolation divine. Dieu nous console dans toutes nos afflictions et nous sommes appelés à consoler toutes sortes de souffrances mises sur notre route. Ce qui est important, c'est que la personne qui vient consoler ait fait l'expérience de la consolation de Dieu. La consolation que nous pouvons apporter ne vient pas guérir l'affligé ou celui qui souffre. C'est la limite de ma condition humaine. Non, je ne viens pas guérir. Mais la consolation apporte un baume, une pommade sur la plaie et aide l'autre à poursuivre son chemin. Le consolateur ne vient pas dire que tout va s'arranger. L'autre reste marqué par le drame, le chagrin, la désolation, mais l'autre va pouvoir poursuivre son chemin. Dans les entretiens, il arrive souvent à la fin que le visage de la personne change entre le moment où elle est venue et le moment où elle part et entre où elle a pu simplement déposer son chagrin. Elle reste marquée par le drame, le chagrin ne change pas, mais la personne repart, avance en inconsolée. Alors j'ai découvert qu'il y a une différence entre l'inconsolable et l'inconsolé. L'inconsolable, c'est celui qui reste muré dans sa souffrance, dans son chagrin, et qui refuse la consolation pour de multiples raisons. Et là, on ne peut rien faire. L'inconsolé, c'est celui qui reste marqué par sa souffrance, son chagrin, mais qui accepte sa condition et continue, malgré tout, d'avancer. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que parfois, nous pouvons donner la consolation, car elle ne veut pas être reçue. Et parfois, nous ne pouvons pas la donner parce qu'en nous, il y a des blocages et des résistances. Et là, c'est encore une fois la limite de notre condition humaine. Toutefois, nous sommes appelés, en tant que disciples du Christ, tant que nous le pouvons, à être des ouvriers de consolation. Alors, comment pouvons-nous nous y prendre? Quand l'occasion se présente, offrir une parole, un regard, une prière, une présence silencieuse, quelque chose qui aide l'autre à réorienter son regard. Réorienter le regard de celui qui souffre vers le vivant, vers l'avenir. Soyons créatifs. C'est un acte gratuit d'amour, délibérément posé, et c'est un acte d'espérance posé sur celui qui souffre. Cet acte, il est en train de te dire « Je ne peux pas t'enlever ta souffrance, tu le sais, mais je refuse de laisser les prophéties incessantes de malheur t'accabler. » Il n'est jamais dans la volonté de Dieu de nous laisser dans une tristesse, un abattement continu. Je me suis dit que la consolation, c'est presque une provocation dans notre monde aujourd'hui, où médias et réseaux sociaux nous abreuvent de ce qui va mal et de ce qui va aller encore plus mal. Oui, la consolation comme provocation dans le monde d'aujourd'hui, qui dit qu'une consolation est possible, un baume sur ta plaie est possible d'être posé. Dieu est le Dieu de toute affliction. Et en tant que consolateur, nous sommes porteurs de cette espérance. La consolation, est-ce que ce ne serait pas finalement ce qu'on offre quand on n'a plus rien à donner? Quand nous souffrons, Dieu nous console. Et quand Dieu nous console, nous devenons à notre tour des agents de consolation. Être consolé afin de pouvoir consoler à notre tour. Dans sa lettre, Paul témoigne de sa consolation, ça déborde. Il partage son expérience. 10 fois, il utilise ce mot. Et pour nous aussi, si nous avons fait l'expérience de la consolation divine, ça déborde. La consolation reçue, finalement, elle n'est presque pas que pour soi-même, alors dans un premier temps, si, mais après, elle n'est pas que pour soi-même, pour son bien personnel, elle est appelée à être partagée, redonnée, redistribuée, là où nous sommes, selon les circonstances et les rencontres que nous faisons. Être consolé pour consoler à son tour. C'est un mouvement de vie et d'espérance, et c'est une circulation à 2 sens. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est appelé à être consolateur tous les jours, à chaque heure de notre vie. Eh bien non, parce que selon les circonstances de nos vies, nous serons tantôt consolateurs et tantôt consolés. Au début de mon engagement dans l'association, je me suis dit, bah, finalement, je vais servir à quoi, parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste. Et puis, je me suis dit, oui, effectivement, on ne peut pas tous devenir pasteur, tous devenir psychologue, assistante sociale. Mais on peut tous partager notre expérience d'avoir été un jour consolé et être à l'écoute. Parce que, à nouveau, je ne m'avance pas trop en disant que nous avons tous ici côtoyé à un moment donné la souffrance et donc avoir expérimenté la consolation de Dieu. Consoler veut dire se tenir à côté de quelqu'un. Alors je me suis dit, bah, si c'est ça, il n'y a pas besoin de grands mots savants, de phrases bien tournées, d'études, d'années d'études. On va essayer d'être à côté, en disant ou pas forcément quelque chose, mais en étant à côté, disposition du cœur. Alors tenons-nous prêts à accueillir la consolation, si le besoin s'en fait sentir. Tenons-nous prêts aussi à l'offrir, si le besoin s'en fait sentir. Et je vais terminer avec le passage qu'a proposé Christine Goldschmidt la semaine dernière à propos de Jésus. Parce que ça m'a marqué, je me suis dit, mais oui, et si on se l'appropriait, cette prophétie aussi, parce qu'on marche à la suite du Christ. Alors, il nous est rappelé, donc elle nous a rappelé dimanche dernier, cette prophétie concernant le Christ, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Être consolé afin de pouvoir consoler. Donc dans la suite de Paul, ayons l'humilité de recevoir la consolation quand on en a besoin et la joie de la partager quand les circonstances se présentent devant nous. Amen.